Marc chapitre 5, nous avons déjà commencé la semaine dernière avec Marc, bon déjà il y a deux semaines on a vu un des miracles de ce chapitre, donc on a vu la guérison de la femme avec la perte de sang, et la semaine dernière nous avons vu la résurrection de la fille de Jaïrus, et finalement, il y avait trop à dire et on en a laissé un petit peu pour aujourd'hui. Donc, mais vous savez, si c'était juste une question de rapporter un miracle ou une œuvre extraordinaire, eh bien, Marc aurait pu dire, en trois versets, Jésus, il y avait un chef religieux qui est venu voir Jésus, il avait sa petite fille qui était malade, elle avait une fièvre très forte et qui menaçait sa vie, et puis après les mortes, et Jésus est arrivé, il l'a ressuscité. Si c'était juste une question de miracle, il aurait suffi de dire ça. Des fois, on achète des livres où il y a beaucoup de mots pour essayer de maintenir le suspense pour aller jusqu'au bout. Mais là, c'est quand la Bible parle, les mots comptent. Hein, il sait pourquoi il n'a pas dit ce qu'il a certaines choses, et il sait pourquoi il dit certaines choses. Et donc, c'est important. Et quand je lis dans les évangiles et quand je vois, il y a certains miracles, ils passent rapidement. Et puis il y a d'autres, ils nous donnent quelques détails. Et donc, vous devez développer ce réflexe que de dire, mais s'il donne des détails, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par ces détails? Et comme on le disait la semaine dernière, en fait, il parle plus de Jaïrus qu'il ne parle de la petite fille qui était malade. C'est elle qui est ressuscitée, c'est bien. Mais là, il passe rapidement pour elle. Mais il prend le temps de nous voir, de suivre Jaïrus et son évolution. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Déjà, on a commencé un petit peu la semaine dernière, mais on veut continuer. Et pour ceux qui n'étaient pas là, donc Jaïrus est un chef de la synagogue, des chefs de la synagogue, puis sa petite fille, sa fille unique, de 12 ans, est très malade, sur le point de mourir. Et donc, il avale son orgueil en tant que religieux, et puis qui normalement était contre tout ce que Jésus faisait. Mais comme on le disait la semaine dernière, c'est en fait son amour pour sa petite fille était plus fort que son désir de préserver son image. C'est... l'orgueil et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Ou on aime, ou on s'aime soi, ou on aime les autres. Et donc là, il était prêt à se mettre à genoux devant le Seigneur s'il pouvait sauver sa fille. Et on a admiré cela. C'est tout à fait humain. C'est extraordinaire. Mais là, je vais revenir sur Jaïrus. Et vous savez, essayons d'imaginer l'état d'âme de Jaïrus quand il quitte la maison. Sa fille est mourante, il la voit partir, et puis quelqu'un lui dit, mais il y a Jésus, j'ai entendu que Jésus vient d'arriver, va le voir. Ça a été suggéré même que lui faisait partie de la délégation qui est allé voir Jésus pour guérir le fils du centenier. Parce qu'il y avait une délégation qui était venue à Capernaum, qui était venue voir Jésus, et qui lui avait dit, écoute, cet homme, c'est un homme qui nous a construit la synagogue, c'est un homme très bien, et son serviteur est malade, est-ce que tu ne peux pas le guérir? Et suggéré, mais maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, peut-être qu'il a déjà vu Jésus guérir quelqu'un d'autre. Et il a cette idée, Jésus peut guérir ma fille si je vais vite, et il peut la guérir. Et on a vu la semaine dernière, on a vu aussi sa prière, on la voit pressante. Jésus, ma fille est sur le point de mourir. C'est au verset 23, donc de Marc 5, il dit... ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà. Et donc, on sent cette... Et alors, il nous dit tout de suite, verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Vous pouvez imaginer le soulagement du papa quand il vient et plaide. Et puis Jésus répond. Hein. On aimerait que toutes nos prières soient comme ça. Hein. On demande à Dieu, et puis tout de suite on le voit, il se met à l'œuvre. Et certainement que ça a donné de l'espoir au papa. Il dit, ah, hein, Jésus, il m'a entendu, et il va venir, ah, c'est super. Et il est soulagé, son espoir est encouragé. Mais je vous laisse imaginer ce qui se passe dans le cœur de ce papa. Bon, mais après, peut-être, je ne sais pas si Jésus marche assez vite, ça se peut qu'il se pose des questions aussi. Mais après, imaginez ce qui se passe dans le cœur de ce papa quand tout d'un coup, Jésus s'arrête. Et pour une dame qui l'a touché. Et bon, il peut... écoute, tu sais, c'est pressant, hein. Puis en plus, bon, peut-être, la dame, elle est malade. Oui, bon, je comprends, elle est malade depuis 12 ans. Mais elle n'est pas morte, hein. Et puis, va pas mourir là sous le poing. Tu peux venir t'occuper d'elle après. Viens vite chez moi. Vous voyez, le papa, c'est un papa comme j'ai été, hein, comme je suis encore. Hein, on ne peut pas penser autrement. Et puis Jésus, il prend le temps et il dit oh, qui est-ce qui m'a touché? Puis la dame, elle arrive. Et puis après, elle raconte son histoire. Et lui, il est là. Il dit bon, il n'avait pas une montre, mais en tous les cas, vous savez, hein, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans son cœur. Dans ses pensées. Et puis après, quelqu'un qui arrive de la maison et dit, elle est morte. Son espoir tombe à zéro. Hein. Et dit, et en plus, si c'était pressé, il aurait pu, mais là... Et puis, en plus, il fait exprès. Et vous savez, il y a combien de prières peut-être qu'on a fait à Dieu, où on a eu les mêmes pensées. Hein? On a eu les mêmes pensées. On dit, bon, pourtant, je sais qu'il allait pouvoir, je sais qu'il pouvait intervenir, la situation était dans ses moyens. Et puis, il a laissé passer l'occasion, et maintenant, je suis encore pire état que j'étais. Et on est humain, et bon, Dieu comprend qu'on est humain, et il ne faut jamais avoir honte d'être humain devant Dieu. Il nous a créés, il sait comment il nous a créés, il sait comment on fonctionne. Et n'hésitez pas dans vos prières de dire à Dieu tout ce que vous ressentez, même si ce n'est pas bien. Parce qu'il sait ce que c'est que la douleur. Il comprend. Hein, je sais, je l'ai déjà dit, mais Job, il a dit des choses dures. Mais à la fin, ce qui me rassure, c'est que Dieu a dit, mais Job, il a bien parlé. Il m'a critiqué, mais il a bien parlé. Parce qu'il a dit ce qu'il y avait dans son cœur, c'est tout. Comme il le comprenait. Mais la différence, c'est qu'il disait tout ce qu'il y avait dans son cœur, mais il n'a pas cessé de faire confiance à Dieu. Il dit, moi, je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas, je ne saisis pas, tout ça. Mais bon, j'ai confiance en toi. Hein? Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Et donc... Et puis après, il arrive ce point, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Ah, elle est morte. Il ne peut plus rien. C'est l'idée qu'il avait dans sa tête. Il ne peut plus rien. Maintenant qu'elle est morte, il ne peut plus rien. Mais c'est une idée fausse. Hein? Lui croyait que Jésus ne peut plus rien. Mais ça ne veut pas dire que c'était vrai. Vous savez combien de fois on se fait du tort parce qu'on pense mal. Ce qu'on pense, ce n'est pas juste. Et des fois, on se fait une idée de Dieu, et alors on l'a créé dans notre imagination, on lui a donné certaines vertus, puis après, ça ne correspond pas, ça ne marche pas, et alors on le critique. Mais il dit, mais ce n'était pas moi ça, ce que toi, tu as l'idée que tu t'es fait de moi, mais ce n'est pas moi, moi je ne me reconnais pas là. Et ce qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on a cette révélation, c'est pour le faire connaître Dieu tel qu'il est réellement. Pas tel qu'on l'imagine, hein, ça, si on comptait sur les hommes et ceux qu'ils imaginent, mais on ne s'en sortirait pas. Hein, parce que chacun, il se fait une autre idée. Et le plus souvent, les gens sont déçus par Dieu, justement parce qu'ils ont une fausse idée de Dieu. Et là, ce père, et voilà, lui, il a cette idée, il peut rien. Hein. Il a cette idée que Jésus peut guérir, mais il ne peut pas ressusciter. On en a parlé la semaine dernière. Et parce que c'est cela, ben, tout d'un coup, tout espoir, l'espoir qui lui restait, eh ben, c'est à zéro. Il n'y a plus rien. Ah oui, mais... vous savez... est possible que Jésus... il a fait exprès de laisser passer le temps. Pourquoi ? Parce qu'il savait ce que pensait Jaïrus. Il dit, moi, je ne veux pas qu'il pense ça de moi, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Donc, je vais l'aider. Donc, il commence à traîner la savate, comme on dit. Hein, en Afrique du Nord, peut-être, mais c'est peut-être pied noir, hein, ça. Mais bon, il laisse passer le temps. Et alors, il met Jaïrus devant un gros problème, c'est que son idée, ça ne marche pas. Ça ne correspond pas. Mais Jésus n'est pas inconscient. Parce que dès que cet homme arrive à niveau zéro, eh bien Jésus a un mot pour lui. Il lui dit, et nous le voyons là, verset 36, il dit, ne crains pas, crois seulement. Il lui donne une parole. Ne crains pas, crois seulement. Vous dites, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, dans sa situation, qu'est-ce que ça lui apporte ? Seulement, c'est quand même Jésus qui l'a dit. Hein, c'est ça qui est, si c'était quelqu'un d'autre, on aurait. Vous savez, il y a des gens, hein, ils viennent vous consoler avec des paroles gentilles, mais ça. Il dit, écoute, bon, ça s'arrangera, bon courage. Et comment tu sais que ça s'arrangera? Sur quelle base est-ce que tu dis ça s'arrangera et ça ira bien? Vous savez, quand vous êtes dans le trou, il y a toujours des gens pour dire quelque chose de comme ça, mais bon, ça ne vous apporte rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir derrière la parole. Hein, c'est quelque chose qui est dit pour être gentil, mais ça n'apporte rien du tout. Il ferait même parfois mieux de ne pas les dire. Mais là, c'est Jésus qui parle. Et cet homme, vous savez, il n'y a rien qui me dit ici que l'homme, tout d'un coup, qu'en attendant, là, tout d'un coup, il s'est effondré, il a commencé à pleurer amèrement et partir tout triste. Mais rien qui ne le dit. Il nous dit, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement, puis après, il se remet en route. Et puis, le papa, et j'essaie d'imaginer, et peut-être, il ne sait pas ce qui va se passer. Parce que Jésus n'a pas dit, hein, je vais la ressusciter. Hein, il a dit, crains pas, crois seulement. Mais il y a quelque chose qui est communiqué par cette parole de Jésus, qui dit, écoute, j'ai une idée, je sais ce que je vais faire. Et le ton de la voix, hein, c'est comme ça, les petits-enfants aussi, avec les parents, ils ne comprennent pas tout ce que les parents leur racontent, ce qu'on va faire, on va faire ça, et puis ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Mais les parents semblent savoir ce qu'ils vont faire. Il y a quelque chose qui les rassure dans le ton, c'est que, bon, j'ai l'impression qu'eux, ils savent et puis ils pensent quelque chose d'amusant. Je me rappelle la première fois que j'ai dit aux enfants, j'ai dit, on va vous amener, mercredi, on va vous emmener au zoo. Ils n'avaient jamais vu de zoo, ils ne savaient pas ce que ça veut dire. Et puis surtout mercredi, hein, quand on est dimanche, mercredi, qu'est-ce que ça veut dire quand on est à 2 ans, hein. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, on va aller au zoo. Et puis ils racontent tout le monde, papa, vous nous emmenez au zoo. Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Mais quelque part dans le ton, parce que papa, il a des choses intéressantes, la manière dont il a dit ça, on a compris que c'était quelque chose qui serait très bien pour nous. Bon, après, quand je les ai amenés, ils regardaient aux pigeons au lieu de regarder aux animaux, hein, parce que les pigeons étaient là. Hein. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais la question, c'est que. Il y a dans le papa a dit quelque chose, ils n'ont pas compris ce qu'il veut dire, c'est un concept qui les échappait, mais le ton les a rassurés. Et là, cet homme, je vois la même chose qui se passe chez lui. Eh bien, Jésus dit, bon, crains pas, crois seulement, on y va. Ben, il y va, Jésus semble savoir ce qu'il va faire, et il semble avoir quelque chose à proposer. Et ils vont jusque dans la maison, ils vont jusqu'au chevet de la petite. Vous savez, c'est ça la parole. C'est pour ça que vous pouvez entendre quelqu'un qui va dire, moi j'ai lu ce verset, le verset il m'a donné de l'espoir. Mais c'est pas parce que les paroles sont belles, mais c'est parce que c'est Dieu qui les a dites, hein, ce qui fait toute la différence. Et quand on commence à connaître le Seigneur et comment vivre avec lui, et puis comment. Et vous savez, on n'a pas besoin de comprendre, rien que le ton de la promesse, ça nous donne de l'espoir. Et alors Jésus. Et Jésus, bon, le papa, il suit, il ne dit rien, hein, il n'y a pas un mot du père, il suit. Et puis après, Jésus arrive dans la maison, et puis les gens sont en train de pleurer, tout ça. Il dit, oh, pourquoi vous pleurez? Elle dort. Ils sont moqués parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Pour vous, elle est morte, mais pour moi, elle dort. Alors, c'est deux choses différentes. Et puis, il va au chevet de la petite fille. Puis, regardez, on va lire ce qui se passe. Regardez au verset 40. Donc, ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, donc les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita, koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Jésus, vous savez, il ressuscite la fille comme s'il était en train de la réveiller. Hein. Vous imaginez une petite fille gentille qui dort comme ça, puis vous venez gentiment. Il a pas giflé parce qu'elle était évanouie, hein. Comme fait le médecin peut-être, ou le dentiste. Hein. Il y a des gens qui s'évanouissent dans le fauteuil du dentiste. Après, il est obligé de leur donner quelques gifles pour les ramener à la conscience. C'est pas comme ça qu'il... C'est pas... Il lui parle. Hein, il s'est pas comporté comme si... Il s'est comporté comme si elle dormait. Il la secoue pas, non? Il prend la main, gentiment, et puis il dit « Talita ». Talita, c'est jeune fille, mais bon, c'est un mot qui vient de l'araméen et qui vient du mot « talet », « talet », qui veut dire agneau. Et dans un sens, c'est un petit mot gentil. Hein. Il dit mon agneau, écoute, lève-toi. Hein, comme on dirait mon petit lapin, on dit, c'est un rêve affectueux. Il s'adresse à la fille, écoute, lève-toi. Puis elle se lève, debout, et puis elle est prête à courir. Hein. Parce que s'il n'y avait pas l'école ce jour-là, c'est pour ça qu'elle se lève en courant. Mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et vous pouvez imaginer les parents, hein, ils regardent la fille, c'est vrai, c'est pas vrai, ils se frottent les yeux. Mais vous savez, Jésus fait ça, et puis bon, après c'est terminé, la fille se lève, il dit donnez-la à manger, puis après, bon. Mais la question c'est qu'est-ce qui se passe chez le papa? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça ce passage, c'est pour ça qu'on a tous ces détails. C'est Jaïrus qui intéresse Jésus. Il a laissé mourir la fille, mais il a pu la ressusciter, donc c'est pas de problème, il n'y a rien de perdu, tout est gagné. Mais c'est le papa, c'est un travail dans le cœur du papa qui intéresse. C'est un homme, un chef d'un synagogue. Donc c'était un homme qui certainement avait toujours des bonnes réponses pour les autres quand ils étaient dans le malheur. Hein, c'est quand on est responsable religieux, on a toujours des belles paroles, des belles phrases comme ça. Bon, c'est pas toujours utile, mais bon, il avait toujours des réponses pour les autres. Mais là, quand lui s'est trouvé dans la situation, il n'y avait pas grand-chose à dire. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et vous savez, on a déjà souligné le fait que son problème, c'était cette conception erronée des capacités de Christ. Et c'était ça son problème, c'était le vrai problème. Et finalement, si lui était resté avec son idée, eh ben il aurait une petite fille. Le cadavre d'une petite fille, hein, il n'aurait pas eu. Mais parce que, quand Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement, sans comprendre, mais il a fait confiance, et c'est là l'autre mot pour foi, hein, c'est l'autre mot qui complète l'idée de ce que c'est que la foi, c'est la confiance. Il a été encouragé à faire confiance et il a suivi. Et vous savez, c'était pas long, c'était pas assez expliqué, rien du tout. Ne crains pas, crois seulement. C'est tout ce qu'il y avait. Mais vous savez, dans Jean, Romains chapitre 10, verset du 7, il nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot parole, là, ce n'est pas le mot logos qu'on trouve dans Jean chapitre 1, verset 1, qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, il parle de toute la parole, toute la révélation de Dieu. Mais ici, c'est, je m'excuse de faire référence au grec, mais moi, je sais lire les dictionnaires. C'est le mot rhéma. Et le mot rhéma, c'est une parole, un mot. Et vous savez, pour que Dieu intervienne, on n'a pas besoin de comprendre toute la parole de Dieu pour qu'elle soit agissante, mais n'importe quelle parole, à partir du moment que c'est une parole qui vient de Dieu, par le biais de Jésus-Christ, ou un de ses révélés à un de ses hommes, ses prophètes, eh bien, toute la puissance est dans n'importe quelle partie de sa parole. Et donc, vous savez, il est possible de se saisir d'un passage. Tout d'un coup, on a l'impression que le Seigneur me dit, écoute, voilà. Et bien, si je me saisis de cette parole, eh bien, je peux partir. Même si je ne comprends pas toutes les implications, mais si je sais que c'est une parole du Seigneur pour moi, eh bien, je peux construire. Et sa tête l'avait amené jusqu'à un certain point. Jésus peut guérir, parce que j'ai déjà vu guérir, mais je ne peux pas aller plus loin. Mais quand son intelligence est arrivée à ses limites, la foi l'a permis d'aller plus loin. Et il a retrouvé sa petite fille. Et c'est la même chose pour nous aussi. Hein, quand nous, on arrive au bout de nos capacités, de notre compréhension, de notre raisonnement, de notre connaissance, et si je m'appuie sur une parole du Seigneur, je peux aller plus loin et avoir autre chose. Et et nous voyons dans cette la vie de Jaïrus comment quand Jaïrus est arrivé à la fin de ses capacités, c'est là que Dieu s'enclenche. Et combien de fois pour nous aussi, des fois on est si Dieu était limité par ce que nous croyons de lui et ce que nous pensons de lui, ben on n'aurait pas grand chose. Et après, on lui dit, finalement, il ne peut pas faire grand-chose pour moi, il ne m'apporte rien, c'est pas nécessaire. Moi, je peux vivre sans lui. Je l'ai entendu hier soir, je crois, quelqu'un, une discussion, un débat sur la radio, et la personne dit, moi, je n'ai pas un problème avec les gens qui croient en Dieu, et qui, si ça leur fait du bien, ça va. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais il n'en a pas besoin, pourquoi? Parce que sa conception est limitée, et puis il dit, Je peux me débrouiller avec ça, j'ai pas besoin de lui, je peux le faire moi-même. Et il a un tout petit Dieu et je comprends pourquoi ça ne suffit pas. Et il croit pouvoir s'en passer parce qu'il a un tout petit Dieu qui n'est pas plus grand que son cerveau, hein, qui arrive à passer entre les deux oreilles. Ben, c'est un petit Dieu ça. Mais quand la foi me permet de voir Dieu tel qu'il se présente à moi, et là c'est autre chose. Et après, là, j'ai recours à tout ce qu'il est et tout ce qu'il m'offre. Et voyez, l'homme, Jaïrus, lui, pour lui, si tant que la fille vit, on peut espérer. Et après, s'il n'y en a plus. Pour Jésus, il disait... Parce que lui, il voyait autrement, il connaissait les capacités de ses capacités, celles de Dieu. Il dit, elle dort. Il exprimait les choses tout autrement. Et vous savez, quand on a la foi, ce qui peut étonner quelqu'un et le bloquer, celui qui a pas la foi, il va au-delà de cela. Et Et quand l'autre abandonne, lui continue encore. Et c'est extraordinaire. Et c'est, je m'arrête là et je reste avec ça. Et puis vraiment, c'est cette pensée-là que je veux laisser avec nous. Parce que pour chacun d'entre nous, c'est pas la religion, c'est pas la confession de foi, c'est pas l'église baptiste apportera rien du tout là sur ce niveau-là. C'est question de comment est-ce que je vois Dieu. Et nous sommes limités. Si je crois que c'est pas possible, je pourrai jamais le faire. Si je crois que c'est pas possible, ça se fera jamais. Mais si par la foi je fais confiance à celui qui peut aller bien plus loin, eh bien il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Et le scientifique, il est limité par ses connaissances. Le psychiatre, le psychologue, il est limité par ses connaissances. Le médecin est limité par ses capacités. Personne ne peut aller plus loin que ce que je sais. Mais la foi, c'est cette confiance en une parole de Dieu. Et donc, la base de tout. Et c'est pour ça qu'on fait un tel cas, et puis on est toujours là avec des Bibles ouvertes. Parce que finalement, c'est parole de Dieu. Donc on peut. Hein, les paroles des autres, bon, ça peut être beau, ça peut être gentil, ça peut être intéressant, ça peut être. Ça peut se chanter, ça peut. Tout ça, mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Hein, donc, je vous encourage à prendre le temps avec la parole de Dieu et de lire. Et pas lire les histoires, pas lire le récit, mais lire le message. Dans le récit. C'est ça qui est particulier avec la Bible. Dans mes relations avec beaucoup de gens, ils me disent, mais bon, la Bible, c'est que des petites histoires, hein, c'est rien, ça ne peut pas être de Dieu, c'est des petites histoires pour les enfants. Et si tu vois comme ça, c'est sûr, hein, tu limites et tu te prives de beaucoup de choses. Mais quand tu commences à lire le message qui est derrière et qu'il veut communiquer à travers de la petite histoire, eh bien, ça, c'était une manière qui caractérisait la manière de Jésus enseigner. Hein, c'est très différent. Vous lisez les évangiles. Je vous encourage à commencer par les évangiles. Parce que les détails, l'histoire, on la comprend facilement. Mais après, il faut dire, mais qu'est-ce que ça me dit sur la personne, hein? Et on fait ça tout le temps. Vous savez, avant d'avoir confiance à quelqu'un, c'est pas parce qu'il dit, vous pouvez me faire confiance, qu'on a confiance. C'est parce qu'on l'observe pendant un temps. Et puis on lit le message qui est dans ce qu'il fait et dans ses comportements. On le fait tout le temps, les uns avec les autres, tout le temps. C'est ça qu'il faut faire avec Dieu. Et cette semaine, j'étais à Paris et j'ai rencontré une dame qui était à Fréjus ici et qui connaissait mes parents. Et elle était venue et bon, ma mère, elle voulait lui parler de ce que c'était de faire confiance au Seigneur. Et elle a dit, je me souviens, votre maman, elle a été mettre du sel dans sa main. Et puis elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit, j'ai dit que c'est du sel. Elle a dit, mais comment est-ce qu'on peut être sûr? Elle a dit, goûtez. Elle a dit, c'est ça qu'il faut faire à Jésus. Elle a dit, la dame, elle est. Et ça fait longtemps. Hein, mes parents, ils ont quitté d'ici en 84, hein, donc c'était avant ça. Et elle dit, mais vous goûtez, c'est tout, c'est pas plus bête que ça. Hein. Et le Seigneur, il dit, goûtez et voyez si c'est bon. Et c'est une question de dire, Seigneur, bon, tu as dit ça, et puis écoute, je m'en sers, j'y vais. Et cette parole est puissante. Mais je reste, avec toutes mes années, à voir les gens et entendre des témoignages, c'est jamais les mêmes versets, c'est chacun, c'est notre manière, c'est ça qui est extraordinaire. Et la personne dit, ouais, mais tout d'un coup, il y a cette parole qui est. Et puis, je me suis accroché. Et puis, ça a permis d'aller plus loin. Vous savez, on peut, même si on a grandi dans l'Église et on entend la Bible tout le temps, mais des fois, on n'a pas entendu le message. Hein, on connaît toutes les histoires, mais on ne connaît pas le message. Et alors, après, on ne passe pas des moments de doute, on peut avoir. Ça se peut. Peut-être c'est tout nouveau, mais la question, c'est le secret que je vous le donne, c'est exactement ce qu'on a ici. Jairus, il est au bout de ce qu'il pouvait, avec toutes ses connaissances théologiques et tout ça, ça ne suffisait pas. mais il effaçait une parole de Jésus. Et puis, sans comprendre, mais Jésus a dit, il a compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. Il a suivi, il a retrouvé sa fille. Et c'est ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que Dieu a pour nous. Et donc le message là, c'est ne crains pas, crois seulement. Saisis une parole. Vous savez, vous êtes en train de lire la parole, vous êtes en train de lire, méditer, comprendre, et puis tout d'un coup, il y a une phrase qui vous arrête. Et bien, restez là. Et méditez dessus. Et dire, bon Seigneur, je crois comprendre ce que ça veut dire. Je te suis. Je marche avec toi. Et vous savez, ça va ouvrir des horizons nouveaux. C'est extraordinaire. Et c'est difficile. Il faut goûter le sel pour être sûr que c'est du sel. Hein. Et il faut goûter la parole de Dieu. Et moi, je suis prêt à accompagner. Jésus a accompagné cet homme, mais il fallait que quelque chose se passe chez lui quand même. Hein. Jésus était le même avant. Il a rencontré la dame. Cet homme, il y avait un changement qui s'est fait chez lui. Et c'est là où je vois la grâce de Dieu. Parce que Jésus, il n'est pas dur avec cet homme. Il est patient avec lui, il travaille avec lui, il accompagne. Après, je vous laisse imaginer le papa quand enfin il comprend que sa fille elle est ressuscitée. Là, c'était autre chose, surtout que c'était sa fille unique et qu'il l'aimait beaucoup. Et puis vous savez ce que c'est qu'une petite fille de 12 ans, hein, ça va droit au cœur. Et Jésus, c'est le Jésus de la Bible. C'est pas peut-être le Jésus du christianisme, hein, le truc général, mais c'est le Jésus de la Bible. Et c'est pour ça que je l'aime. Et il me suffit largement. Nous allons prier. Et